Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Et de trois, le Parlement français a voté aujourd'hui une troisième prolongation de l'état d'urgence instauré il y a 6 mois dans la foulée des attentats du 13 novembre. Il durera donc jusqu'à fin juillet, jusqu'au 26, et couvrira la période de l'Euro 2016 et du Tour de France. Deux événements sportifs d'ampleur, deux cibles potentielles pour les terroristes. La menace demeure à niveau élevé, a justifié encore une fois ce midi, à l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.
La France représente au sein de l'Union européenne, comme l'Union européenne elle-même, une cible en raison du combat résolu qu'elle mène contre les djihadistes au Sahel, en Irak, en Syrie, mais aussi plus profondément en raison des principes universels de liberté, de laïcité, d'émancipation qui sont les nôtres depuis plus de 2 siècles et qui font horreur aux terroristes djihadistes.
Un état d'exception pour autant très controversé dans un récent rapport d'Amnesty International. On parle d'un régime dont la nécessité n'est pas démontrée, d'un régime qui permet des violations disproportionnées des droits de l'homme. Alors l'état d'urgence est-il toujours nécessaire aujourd'hui en France ? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio 2 invités. Marion Lagaillarde, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire national du syndicat de la magistrature. Philippe Doucet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député socialiste, membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Alors Philippe Doucet, je me permets juste de le rappeler pour les auditeurs. L'état d'urgence donne des pouvoirs élargis à la police, exemple des assignations à résidence, des perquisitions sans autorisation préalable du juge. Alors 6 mois après les attentats du 13 novembre, est-ce que pour vous, cet état d'urgence est toujours nécessaire ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment posé de débat à l'Assemblée nationale. Hein. Ça peut peut-être en poser
ailleurs.
Les débats
ont été où ? Le vote est large, mais les débats ont été assez polémiques.
Mais les débats ont pu être polémiques parce que finalement, la droite nous a reproché d'avoir enlevé les perquisitions administratives dans ce nouvel état d'urgence. Parce qu'on a considéré qu'effectivement, après les deux premiers états d'urgence, il n'y avait pas besoin d'avoir ces perquisitions administratives. Donc finalement, la droite nous reprochait de ne pas en faire assez. Et on va dire le front de gauche nous reprochait de prolonger l'état d'urgence. On est sur une situation qui est toute simple, qui est d'abord une lecture politique, qui est de se dire on a besoin aujourd'hui, quand on a les deux événements, d'ailleurs vous avez ouvert vous-même votre sujet avec ces deux événements, à savoir l'Euro 2016 et le Tour de France, mais je dirais principalement l'Euro 2016, qui est quand même...
Les deux sont régulièrement mentionnés par l'exécutif.
Les deux sont régulièrement mentionnés, mais je pense qu'en termes de logique de sécurité, l'Euro 2016, avec sa portée symbolique et ses regroupements de
dans
personnes...
Dans les fan zones.
Voilà, dans les fan zones. Donc, quand on voit le dispositif de sécurité, par exemple, qui va être mis sur la fan zone sur le Champ de Mars, on a besoin de couvrir, d'avoir cet état d'urgence par rapport à ça. Et donc, on voit bien que vous l'évoquez, donc les perquisitions administratives ont été retirées. Donc ça nous permet, nous, de garder un dispositif, y compris un dispositif politique et, première chose, un dispositif de réassurance, parce que dans l'Euro 2016, il n'y aura pas que des joueurs de foot français.
Donc et de réassurance, vous voulez dire de la population ?
De la population, bien sûr. De la population française, mais aussi de tous ceux qui, en Europe, vont suivre avec attention tous ces matchs de foot. Et donc, on voulait avoir un dispositif puissant.
Marion Lagaillarde, votre avis sur la prolongation de cet état d'urgence ? Bonne ou mauvaise nouvelle ?
Mauvaise nouvelle, évidemment. Pour le syndicat de la magistrature, comme pour beaucoup d'autres organisations, l'état d'urgence n'avait pas à être prolongé. Pourquoi ? Parce qu'il est inefficace à la lutte antiterroriste. C'est vraiment ce qu'on soutient, en plus des dérives graves dont on a déjà beaucoup parlé et sur lesquelles je ne vais pas revenir. Pourquoi ? Toutes les mesures qui sont prévues par l'état d'urgence existent déjà dans le droit commun. Ce qui est différent dans l'état d'urgence, c'est les conditions dans lesquelles ces mesures-là sont prises qui décident comment c'est décidé, selon
sans autorisation préalable du juge, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Du juge judiciaire.
Toute une batterie de mesures qui sont prises sous un motif qui est très global et très imprécis de la lutte antiterroriste. Or, ce qu'on sait, c'est que les mesures qui fonctionnent dans la lutte antiterroriste, ce sont des mesures qui sont précises et ciblées. Exemple, les perquisitions administratives qui sont heureusement supprimées. 3600 perquisitions et derrière, 6 vraies procédures antiterroristes. À rapprocher de quoi ? De 96 procédures antiterroristes sur la même période qui se sont passées sous le seul giron judiciaire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Une mesure administrative, elle est prise sur la base de critères qui sont vagues, qui sont flous, qui sont des critères de soupçon. Alors que des mesures judiciaires, elles sont prises sur la base d'indices graves et concordants qu'on a tenté de commettre ou qu'on a commis un crime ou un délit. C'est ce qui est sérieux et c'est ce qui marche dans la lutte antiterroriste. Même chose sur les assignations à résidence. 400 assignations au départ, il n'en reste que 69 à l'issue de la première prolongation. Les 350 personnes qui étaient des dangereux terroristes il y a 3 mois sont finalement d'un seul coup plus du tout des dangereux terroristes. Donc sur les 69 qui restent, qu'est-ce qu'on en fait ? Il existe encore une fois pour ces 69 personnes qui restent des possibilités traiter leur situation. Soit ils sont effectivement très dangereux, ils ont commis des infractions, ils sont sous contrôle judiciaire, et là il n'y a pas de difficulté. S'il s'agit de leur interdire de rejoindre un théâtre d'opérations terroristes, alors dans ce cas-là, on prononce une interdiction de sortie du territoire qui est tout à fait possible à prononcer hors état d'urgence.
Alors pas trop vite, c'est effectivement, vous avez un propos qui est assez clair, état d'urgence pas nécessaire car inefficace. Alors qu'est-ce que vous répondez à ces critiques, Philippe Doucet ?
Bon, d'abord, sur l'efficacité, on est sur soit on fait une lecture en droit, soit on fait une lecture politique. D'abord, sur la lecture politique, moi, j'ai jamais considéré que le juge administratif était moins protecteur des libertés que le juge judiciaire. Ça, c'est une vieille thèse qu'on entend. On le voit d'ailleurs, je vois pas en quoi les tribunaux administratifs, on l'a encore vu sur des manifestants à qui le ministre de l'Intérieur ne souhaitait pas qu'ils aient le droit de manifester, ont eu le droit de manifester. Donc le juge administratif est aussi un juge des libertés, et le Conseil d'État, qui couvre l'ensemble du dispositif, est aussi garant des libertés. Donc je ne cautionne pas cette logique que le juge judiciaire est supérieur au juge administratif ou au juge des libertés. Sur l'efficacité, moi, en tant que député, je ne signe pas pour dire, pour prendre la responsabilité politique devant les Français qui sont traumatisés à juste titre par la succession des attentats en France, 2 fois en Belgique par rapport à ça, pour dire que demain on ne fait pas tout, on ne se donne pas tous les moyens, parce que tous les Français ne sont pas des spécialistes du droit, on ne se donne pas tous les moyens de les protéger dans cette phase. Je rappelle qu'aujourd'hui, on nous reproche même de laisser, y compris parce qu'on est sur une logique politique, donc on fait, le gouvernement et la majorité fait aussi avec la situation politique du pays. Quand aujourd'hui, on a des députés et des élus de droite et des partis de droite ou d'extrême droite qui nous reprochent, par exemple, de laisser des manifestations se faire contre la loi travail, de laisser la place de la République occupée par Nuit Debout, je suis obligé de rappeler que le droit de manifester est dans la Constitution. Donc on essaye de trouver un équilibre entre le sentiment nécessaire de protection des Français avec les outils qui sont les nôtres.
Mais est-ce que l'état d'urgence a cette vocation de réassurance politique ?
Oui.
Est-ce que c'est sa vocation ?
Il a aussi cette vocation-là. Derrière, je ne prends pas, imaginons, je ne le souhaite pas, nous n'avons pas prolongé l'état d'urgence. Nous avons un attentat pendant l'euro. Vous ne croyez pas que les Français et une partie des forces politiques nous reprocheraient d'avoir supprimé l'état d'urgence ? Donc, on a déjà eu ces discussions à chaque fois. Même hier, aujourd'hui, et puis en commission, la droite nous a reproché de retirer les perquisitions administratives, donc de faire preuve de laxisme. On a ces débats-là en permanence, y compris avec les casseurs il y a quelques jours dans les manifestations, encore hier, etc.
Donc, oui, donc vous revendiquez une réassurance, c'est aussi la vocation de l'état d'urgence.
On revendique une réassurance, quand on est député, on fait aussi de la politique et on parle aux Français.
Et on
ne fait pas que du droit.
Des comptes de ce point de vue-là.
On rend des comptes.
Marion Lagaillarde, sur cet aspect quand même, effectivement, l'euro, le Tour de France, il y a encore eu hier des propos du patron de la DGSI qui a dit que la France était visée comme d'autres pays en Europe. Est-ce que vous comprenez quand même ces inquiétudes des Français et cette réponse des députés et des sénateurs, ou pour vous, elle est complètement à côté ?
Mais évidemment, je comprends les inquiétudes des Français. La lutte antiterroriste, en tant que magistrat, on est quand même pas mal placé pour s'y intéresser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité. Et pour le coup, l'effet d'affichage qui est recherché par les politiques, qui consiste à dire qu'il y a besoin de se dire sous l'état d'urgence pour cet effet de réassurance, c'est pas quelque chose qui nous fait souci dans la mesure où c'est pas utile.
Est-ce que c'est pas utile depuis 6 mois? Parce que c'est vrai que les chiffres des perquisitions, des saisies d'armes sont tombés à quasiment rien par jour par rapport aux quelques semaines qui ont suivi les attentats.
C'était pas utile au départ, ça l'est de moins en moins évidemment. Au départ, mais ça demanderait d'entrer dans des détails techniques. Tout, et c'est ce que je disais depuis le départ, toutes les cartes sont en main à la fois de l'autorité administrative et à la fois de l'autorité judiciaire pour répondre aux actes de terrorisme et pour la prévention. C'est assez simple en fait. Dans la lutte antiterroriste, il y a l'administratif. C'est du renseignement et donc par définition, c'est secret. Et ça ne porte pas atteinte aux libertés ou aux droits, ou le moins possible, parce que précisément, on ne sait pas si la personne a quelque chose à se reprocher. Et dès qu'on entre dans le pénal, et on y entre très très vite, parce qu'on entre très très vite dans les premiers actes d'une association de malfaiteurs, il y a, à ce moment-là, une entrée dans le domaine du judiciaire. Il y a des atteintes aux droits. Et pourquoi, quand il y a des atteintes aux droits, c'est le juge judiciaire qui doit entrer en jeu? C'est pas du tout parce que le juge judiciaire se sent supérieur au juge administratif. Absolument pas. C'est parce que constitutionnellement, c'est le juge judiciaire qui est garant des libertés individuelles et que quand on perquisitionne chez les gens, quand on assigne à résidence, c'est des atteintes aux libertés individuelles. Alors, sur le maintien de l'ordre, et je reviens un tout petit peu sur votre question de départ qui était celle de l'Euro 2016 et du Tour de France, mais comment faisait-on pour les Tours de France et les euros précédents? Il y a toute une batterie de mesures possibles, restrictions de la circulation, qui sont prises par arrêtés préfectoraux, par arrêtés municipaux, sans aucune difficulté en permanence. Enfin, des manifestations sportives, on coupe la circulation sur un espace, et puis il y a Vigipirate, et à ce moment-là, les policiers peuvent se poster pour protéger.
Alors, je crois qu'on a bien compris votre divergence, effectivement, sur l'efficacité de la mesure. Je voudrais quand même qu'on en vienne à ces principes plus philosophiques. Je citais tout à l'heure le rapport d'Amnesty International, qui parle de cette inefficacité, selon l'organisation, et qui parle aussi d'effets pervers de certaines de ces mesures, notamment les assignations à résidence, qui parle de la perte d'emploi de certains assignés à résidence, de la stigmatisation dont certains font aujourd'hui l'objet, qui parle aussi d'une précarité, d'erreurs qui ont été commises. Philippe Doucet, est-ce que vous reconnaissez tout de même ces abus qui sont dénoncés par Amnesty International et par d'autres d'ailleurs?
Oui, enfin, attendez, moi je ne dis pas que tout a été 100% réussi. Mais je peux vous dire qu'il y a eu un contrôle parlementaire extrêmement étroit de l'état d'urgence. D'ailleurs, c'était Jean-Jacques Urvoas, il était encore président de la commission des lois, pas encore ministre de la Justice, qui pilotait lui-même l'ensemble du contrôle dispositif. Et on a fait ça de manière extrêmement étroite, puisqu'on avait un retour très régulier, un suivi en commission des lois. Quand je regardais, avant de démarrer cette émission, quelques éléments du rapport d'Amnesty International, on arrête une famille qui s'apprête à partir en voyage en Turquie, disent-ils, en tout cas les services de renseignement supposaient que c'était en Syrie, qu'ils ont une interdiction de sortie du territoire, à la fin, c'est parole contre parole. Donc derrière aujourd'hui, ce qu'on a constaté quand même dans ce dispositif-là, et on le voit dans les enquêtes sur les attentats du 13 novembre, c'est que Monsieur Abaoud et ses amis, eh bien, ils sont passés à travers le flot des réfugiés. Donc, à un moment donné, nous, dans cette affaire-là, on a une responsabilité par rapport au maintien de la cohésion nationale dans ce dispositif. Donc, quand on met en place...
Donc, la précaution peut donner lieu à des erreurs, et c'est normal.
La précaution peut donner lieu à des erreurs. Les erreurs peuvent être regrettables. Je pense que, même quand on lit le rapport d'Amnesty International, logique de stigmatisation... Pour être un élu de banlieue, la stigmatisation et la logique de discrimination, c'est malheureusement une des composantes de la société française sur laquelle on a à travailler au-delà de ceux qui sont arrêtés ou assignés à résidence dans cet état-là. Donc on a un sujet,
elle peut aussi exister,
mais franchement j'ai trouvé que dans les éléments du rapport de l'Amnesty International par rapport à l'enjeu qui était le nôtre, le rapport efficacité et éventuels dégâts collatéraux, franchement ils sont extrêmement minimes. Parce que quand on en est à parler de stigmatisation, je préfère qu'on empêche une famille de se rendre éventuellement en Turquie pour être sûr qu'elle ne parte pas en Syrie. Aujourd'hui, on a des dizaines de mineurs, des femmes avec des enfants en bas âge, qui sont partis en Syrie et qui sont passés à travers les mailles du filet. C'est ça aussi la réalité.
Marion Lagaillarde, votre opposition frontale à l'état d'urgence dans sa nature, c'est ce que vous nous expliquez, est-ce qu'elle se situe uniquement sur le terrain de l'inefficacité ou aussi sur le terrain de ces effets pervers qui sont dénoncés par des ONG, ou c'est pas du tout votre registre d'opposition?
Sur le terrain des effets pervers, évidemment, on s'y oppose. Évidemment, philosophiquement, sur le terrain du respect des droits fondamentaux, du respect des libertés individuelles, c'est le premier point sur lequel on s'oppose à l'état d'urgence. Je reviens un petit peu en arrière quand même sur cette commission et sur ce contrôle parlementaire dont parle Monsieur Doucet.
Jean-Jacques Urvoas, selon vous, n'a pas été suffisant ?
Juste un point, Jean-Jacques Urvoas, qui était à la tête de cette commission au départ, était contre la première prolongation tant qu'il était dans cette commission parlementaire, devenu garde des Sceaux. d'un coup d'un seul, il est pour la prolongation. Et là, j'ai sous les yeux la communication. J'ai sous les yeux la communication d'étape sur le contrôle de l'état d'urgence, commission des lois mardi 17 mai 2016, Dominique Rimbaud, Jean-Frédéric Poisson, qu'on peut difficilement taxer d'être d'acharnés droits de l'homiste ou des gauchistes ou de dangereux gauchistes,
sont effectivement...
Dominique Rimbaud est un ancien avocat, signal, etc., alors, très sensible à toutes ces dimensions-là, Dominique Rimbaud.
Signal qu'il y a des abus importants et signal cette faible efficacité de l'état d'urgence.
Et parle effectivement de l'objectif qui est désormais celui du maintien de l'ordre, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je voudrais quand même qu'on dise un mot, parce qu'il nous reste plus que quelques minutes, de cette loi contre le crime organisé qui va être votée d'ici quelques semaines et dont on dit qu'elle va remplacer l'état d'urgence et que c'est pour ça que la prolongation de l'état d'urgence est cette fois de 2 mois et pas de 3 mois. Philippe Doucet, est-ce que c'est un prétexte, cette prolongation, jusqu'à l'adoption de cette loi ?
Non, c'est deux registres différents. On a une... La difficulté, c'est quand on met en place un état d'urgence, c'est effectivement comment on en sort, pas administrativement, techniquement, mais comment on en sort politiquement. Donc c'est pour ça que on a voulu le prolonger. Il pouvait y avoir des débats, et Jean-Jacques Urvoas a sur le fond pas vraiment changé de ligne. Et c'est pour ça qu'on prolonge de 2 mois en enlevant les perquisitions administratives pour avoir une sortie en biseau de l'état d'urgence, tout en assurant l'Euro 2016 et le Tour de France.
Mais dans cette loi, quand même, contre le crime organisé, il y a des dispositions qui ressemblent fortement...
Après, il y a un autre sujet qui est sur la loi sur le crime organisé. Derrière, après, on le dit clairement, nous ne souhaitons pas, et nous sommes aujourd'hui majoritaires sur cette ligne-là, que la gauche, à un moment donné, puisse donner la moindre prise à une logique de laxisme de ce qui peut être perçu en tant que tel. Les Français demandent de la sécurité.
Mais je rappelle à l'inverse, est-ce que vous êtes prêt à assumer un état d'urgence permanent?
Non, c'est pas un état d'urgence permanent. En aucun cas, on a un Patriot Act. On est en rien de ce qui est comparable à ce que les Américains ont mis en place. On est très éloigné de cette logique-là. Je rappelle que la sécurité, c'est la première des libertés. Et quand dans Paris, on peut plus boire un verre à une terrasse, je considère que les libertés fondamentales sont atteintes. Et donc, notre rôle, c'est de protéger les Françaises et les Français dans cette logique-là. Et la sécurité, je le rappelle, c'est la première des libertés, c'est même dans la Déclaration des droits de l'homme.
Marion Lagaillard, sur cette loi qui est en train de se préparer, je donne juste quelques-unes des dispositions. Possibilité, lors d'un contrôle d'identité, de retenir en cas de soupçon terroriste une personne pendant 4 heures pour vérifier sa situation. Possibilité d'assigner à résidence pendant 1 mois des individus de retour de théâtre d'opération de groupement terroriste. Est-ce que, pour vous, cette loi, elle ressemble à une transposition de l'état d'urgence dans le droit commun ?
Cette loi ressemble un petit peu effectivement à un état d'urgence édulcoré. On l'a dit, la France se dote de la législation antiterroriste la plus sévère d'Europe. En réalité, en l'état actuel du droit, c'était notre droit français était déjà le droit antiterroriste le plus sévère d'Europe. Il monte encore d'un cran là-dedans. Il y a énormément de dispositions dans cette loi qui sont attentatoires aux libertés publiques. En particulier, je pense par exemple aux fouilles dans l'espace public. On va pouvoir effectivement être fouillé, être contrôlé. La difficulté, c'est que dans tout ce type de mesures-là, dès lors que les critères sur la base desquels les mesures sont réalisées sont faibles, et bien dans ce cas-là, les mesures sont de plus en plus facilement discriminatoires. Et ça, c'est quelque chose de grave et quelque chose qui est vraiment gênant pour l'état de droit.
Elle vous inquiète. Juste une dernière.
Nous aurons à gérer, pardonnez-moi, on va avoir des retours de Syrie, on en a déjà. Je vous assure que dans ce dispositif-là, eh bien, nous avons, nous, l'obligation d'avoir à gérer, pour les Françaises et les Français, comment nous gérons tous ces retours de Syrie et que ceux qui rentrent de Syrie rentrent dans une logique de déradicalisation et de contrôle politique, judiciaire, administratif qu'on protège les Français.
Juste un dernier mot, Philippe Doucet, vous nous assurez que dans 2 mois, il n'y aura plus d'état d'urgence qui sera levé après l'euro et après le Tour de France.
Je pense qu'on est dans cette logique-là, oui.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci donc à Philippe Doucet, député socialiste, membre de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, à Marion Lagaillard, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Merci également à Florence Ponce, à Valentin Vanneur. Dans quelques secondes, c'est un nouveau journal sur RFI. En sol majeur.